Nous prions. Éternel, accorde-nous ton esprit, afin que nous discernions où aller quand nos chemins s'égarent, et ce que nous pouvons faire quand nos forces s'épuisent, et comment nous tenir quand l'avenir est incertain. Nous avons besoin du souffle, de lumière, de ta parole. Amen. Je vous propose ce matin de méditer sur le psaume 84, dont vous avez trouvé le texte dans les recueils de cantiques. C'est un psaume dont un ou deux versets sont repris dans le texte de la cantate qui sera jouée ici cet après-midi. Mais bien sûr, je l'ai pris en entier. Et comme vous avez remarqué, eh bien, c'est un culte tout en psaume, aussi bien chanté que médité. La traduction que vous trouvez sur les feuilles est d'après celle de la Nouvelle Bible Second, mais j'y ai apporté plusieurs modifications. Donc au psaume 84. Du chef de chœur sur la guittite des fils de Corée, psaume. Comme elles sont chéries, tes demeures éternelles des armées d'étoiles. Je m'épuise à force de languir après les cours du temple de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Même le passereau trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées d'étoiles, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les humains dont la fierté est en toi. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée de la sécheresse, ils en font un point d'eau, et la pluie d'automne la couvre aussi d'étangs. Ils vont de vigueur en vigueur, ils paraîtront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées d'étoiles, entends ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, ô Dieu, vois, regarde le visage de l'humain qui a reçu ton onction. Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton temple que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne sa grâce, la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Éternel des armées d'étoiles, heureux l'humain qui met sa confiance en toi. Dans l'édition de la Nouvelle Bible Second, ce psaume a pour titre « Psaume des pèlerins arrivant à Jérusalem ». Mais qu'est-ce que ce pèlerinage ? Qu'est-ce que ce pèlerinage quand il n'est plus pour nous celui dont le titre rencontre un pèlerinage vers le temple de Jérusalem pour l'une des grandes fêtes religieuses juives à l'occasion de laquelle convergeait à Jérusalem la foule des croyants. Le temple est détruit depuis le 1er siècle et le judaïsme s'est redéfini selon les Écritures, selon la Bible hébraïque. Et celles et ceux qui suivent la voie de Jésus le Christ, la voie, VOIE, de l'Évangile, continuent cependant à lire les psaumes et nous pouvons y entendre et comprendre, en recevoir un écho, un souffle vivifiant pour notre propre marche de chercheurs et de vivants. Pèlerinage toujours, non vers un lieu déterminé et précis, mais pèlerinage sur un chemin où la quête devient celle d'une existence qui n'est pas errance, qui n'est pas perdition, qui n'est pas absurde. Une marche sur un chemin qui n'est pas déjà tracé, mais où chacun, chacune se trouve au bénéfice de celles et ceux qui ont déjà marché. Il ne s'agit plus d'arriver en un lieu, un temple, une église, une grotte, une source. Il s'agit d'avancer, d'une marche singulière qui se lie et se relie à d'autres marches singulières, une manière de faire route ensemble, dont nous sommes témoins ici, ce matin, comme assemblés, comme bien d'autres pèlerins sont assemblés en d'autres lieux qui ne sont pas des buts, mais des points d'étape partagés. C'est cela un culte aussi. Alors le psaume 84 n'est pas le plus connu des psaumes, comme peuvent l'être le psaume 23 ou le psaume 103. Mais pour un pèlerinage, un chemin d'existence, il déploie dans ces trois strophes quelques repères, quelques indications, et surtout une dimension indispensable de la marche, quelles que soient les circonstances que traverse l'existence. Et nous cheminerons donc dans ces trois strophes, l'une après l'autre. Et d'abord, bien sûr, la première. Les demeures de l'Éternel, les cours du temple, les autels, tous ces lieux situés, visualisés par le psalmiste, se rapportent à la possibilité d'une relation bénéfique et bienfaisante avec l'Éternel, une présence, une connexion, dirait-on aujourd'hui, dont l'effet est de rendre vivant. Je m'épuise à force de languir après les cours du temple de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. C'est de l'aspiration à la vie dont parle le psaume. Une aspiration à vivre qui est bien autre chose que le fait d'être vivant sur la terre, vivre autrement que de vie biologique. Cette aspiration à la vie qui ne se satisfait pas de la vie quand elle est retenue par sa conservation, contenue dans sa conservation, ce qui engage toujours dans des compétitions terribles. Mais cette aspiration à la vie qui d'une intuition qu'il faut plus que soi pour que la vie s'épanouisse, ouvre à la quête de la transcendance qui donne sens. Cette aspiration à la vie porte à l'existence, c'est-à-dire à la vie qui entre dans une dynamique ne dépendant pas de ce que nous sommes, mais répondant à un appel, à une promesse, à un don venu d'ailleurs que de nous-mêmes. Aspirer à vivre, aspirer à être vivant, cela peut saisir l'humain de bien des manières et par bien des moyens. Peut-être une cantate de Bach ou un lever de soleil, peut-être un poème de René Char ou la fragilité d'un nouveau-né, peut-être un tableau de Van Gogh ou la détresse d'un prochain. Peut-être aussi en rencontrant des vivants de cette vie vivante, ou en laissant retentir en soi un texte biblique, un psaume, ou un récit d'évangile comme celui d'une Samaritaine qui avait tellement soif qu'elle s'épuisait en cherchant un moyen d'être désaltérée. Aspirer à vivre, c'est dégager en soi cet espace de l'âme dans la profondeur de laquelle la transcendance vient réveiller la confiance et où le Christ semé en l'être vient grandir. Mais dans le même temps, cette aspiration à vivre, vivre soi-même, une existence véritable, relie aussi l'humain aux armées d'étoiles, comme aux petits passereaux, parce que la transcendance enveloppe les unes comme les autres. Elle ne serait pas transcendance si elle était réservée aux seuls humains. L'éternel correspond ici, dans le texte hébreu, au tétragramme. Le tétragramme, c'est quatre lettres par lesquelles Dieu se présente à Moïse lorsqu'il l'envoie pour faire sortir les Hébreux de l'esclavage. Quatre lettres qu'on prononce souvent Yahvé et qui rassemblent en quatre lettres tous les temps du verbe être. Raison pour laquelle le protestantisme, dès ses débuts, a choisi le terme éternel pour transcrire ce tétragramme. La transcendance échappe au temps. Et il est bien dommage que des traductions plus récentes, comme celle de la Nouvelle Bible Second, aient choisi le terme « Seigneur » tout en majuscule, parce que ce terme-là ouvre un champ de compréhension complètement différent dans le registre de la hiérarchie et de l'obéissance due. Donc, saisi par la transcendance, relié à l'éternel, l'humain l'est aussi à ce qui lui échappe complètement, les myriades d'étoiles du ciel. L'éternel des armées, vous avez remarqué que j'ai oublié un éternel des armées qu'on trouve dans la Bible Second, cette traduction quasiment unanime n'est l'éternel d'aucune armée humaine. Mais l'éternel l'est, éternel, aussi bien pour les étoiles du ciel et l'immensité de l'univers que pour le petit passereau si commun, si vulnérable aux prédateurs, y compris humains. L'éternel des armées, c'est l'éternel des armées d'astres et d'étoiles. Et nous voici donc bien entourés par les étoiles, les passereaux, les hirondelles, parmi eux et partie prenante de l'ensemble, vivant dans cet ensemble. Dans l'aspiration à vivre, nous voici accordés, raccordés à l'éternel et à l'univers, et cela est générateur de louanges. La première des trois béatitudes du psaume: heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Cette béatitude trace ainsi la forme de la première réponse de l'humain, une forme de l'existence humaine, la louange, la reconnaissance, l'action de grâce, la gratitude qui nous dispose dans le bon sens de la marche. La béatitude qui ouvre la deuxième strophe. Heureux les humains dont la fierté est en toi. Cette béatitude sur la fierté, eh bien, évoque une fierté, pas celle qui dérive trop souvent en orgueil, avec ses funestes conséquences de déconsidération et d'écrasement d'autrui. Ce n'est pas la fierté qui conduit à se comparer à d'autres. C'est la fierté qui est la tranquille assurance d'être autorisé à exister. La fierté qui est la joie d'être reconnu. Ainsi, l'existence devient marche de la fierté d'être acceptée. Une reconnaissance et une acceptation inconditionnelle dont Jésus de Nazareth n'a cessé de témoigner dans toutes ses rencontres, ce qui se dit aussi avec le terme de grâce qui confère à chacune de nos existences une qualité nouvelle et inaliénable. Lorsque la fierté est mise en Dieu, il n'est pas besoin de chercher des justifications qui apporteraient assurance, notoriété ou prestige. Lorsque nous mettons notre fierté en Dieu, elle ne dépend plus de nos qualités, elle ne diminue pas à cause de nos manques ou de nos faiblesses. Et c'est ainsi qu'est libérée en nous une capacité à transformer et à créer du bon, du bien, une fécondité de l'être pour les autres. Faire un point d'eau dans une vallée de sécheresse. Comme la pluie d'automne y fait apparaître des étangs qui irrigueront la terre et les cultures qui permettront les récoltes pour la nourriture de tous. Tournée vers l'Éternel des armées d'étoiles, des passereaux et des hirondelles, l'aspiration à vivre nous tourne vers les autres et nous en sommes transformés. Ce n'est pas par nos compétences, par nos forces et par nos moyens que nous pouvons ainsi créer, mais à partir de l'aspiration à vivre qui a reçu de quoi être désaltérée en vie vivante et qui nous dispose ainsi au service, nous oriente en service. Les compétences, les forces, les moyens viennent ensuite comme des outils pour donner des formes à notre service, des formes à notre générosité, reflet de la générosité du Père qui fait pleuvoir et lever le soleil sur tous. Et sur ce chemin-là, la vigueur, c'est-à-dire l'énergie et la force d'avancer, la vigueur vient au fur et à mesure de la marche, d'étape en étape, de pas en pas. Elle ne s'use pas au long du chemin, elle est ressourcée au fil d'une existence véritablement existence offerte à elle-même. Elle est ressourcée dans le bonheur de la fierté d'être bénéficiaire de l'acquiescement de Dieu. Alors la troisième strophe du psaume déplie une détermination, un engagement adossé à la confession de foi du psalmiste en un Dieu bouclier, un Dieu soleil, un Dieu de grâce et de gloire. La métaphore du bouclier est certes une image guerrière que nous hésiterions à utiliser, et encore plus en ces temps de guerres multiples. Mais nous avons déjà relevé que l'Éternel des armées n'est pas l'Éternel des champs de bataille, mais l'Éternel des champs d'étoiles, Dieu de l'univers. Et le Dieu de Jésus-Christ ne prend pas parti pour un peuple contre un autre. Il prend le parti des humains aspirant à vivre, et même des humains dont l'aspiration à vivre ne vient pas à la conscience, et même des humains dont l'aspiration à vivre ne trouve pas de quoi le nommer. Mais nous éprouvons aussi que l'éternel, que l'existence ne va pas sans combat, des combats intérieurs entre ce qui en nous défait les liens d'humanité et des combats extérieurs contre les puissances destructrices des vivants. Dans un combat, un bouclier sert à protéger des coups. Cependant, nous savons bien que nous ne sommes pas préservés, que nous sommes aussi atteints par les coups du mal. Avec un bouclier, nous pouvons durer, poursuivre ces luttes pour l'humanité. Nous pouvons persévérer et nous pouvons vivre encore. Le Dieu bouclier n'est pas un Dieu qui empêche de souffrir. Il est le Dieu qui communique la possibilité de vivre encore. Alors oui, un jour en relation avec lui vaut mieux que 1000 jours coupés de lui. Car c'est un jour de vie, un jour de densité, de plénitude de vie, un jour qui encourage pour d'autres jours où l'on se trouvera démuni, désemparé, rempli de doutes ou d'obscurité. Et c'est grâce à ce jour, mais il n'est pas unique dans le cours d'une existence, c'est grâce à ce jour que nous pouvons, comme le psalmiste, choisir de ne pas résider sous les tentes de la méchanceté. Le choisir, le décider et se tenir à ce choix. Quand bien même la méchanceté pousse parfois sa griffe en nous, quand bien même elle hurle autour de nous. La méchanceté, c'est ce qui empiète sur autrui, lui marche dessus, l'écrase, même un peu, C'est ce qui empêche l'autre de respirer, de parler, de se mouvoir. La méchanceté, c'est ce qui restreint la place et la liberté d'autrui et lui impose un malheur. Et cependant, ce faisant, celui qui se laisse aller à la méchanceté se fait également tort à lui-même, à sa propre humanité. Mais nous pouvons renoncer à la méchanceté. Nous pouvons avoir prise sur le mal que nous pourrions faire, que nous sommes parfois tentés de faire, et ne pas le faire. L'aspiration à la vie vivante n'est pas une aspiration égoïste, repliée sur soi, elle relie de ces liens qui font vivre autrui. Et nous avons été quelques-uns, la semaine passée, il y a 3 jours, à lire et relire un extrait d'une des lettres de Hetty Hillesum, une jeune femme juive enfermée dans un camp de transit en Hollande, qui sera déportée à Auschwitz où elle mourra. Et elle écrivait à des amis en décembre 1942. Je sais que ceux qui haïssent ont de bonnes raisons à cela. Mais pourquoi devrions-nous choisir toujours la voie la plus facile, la plus rebattue? Au camp, j'ai senti de tout mon être que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore. Et je pense, avec une naïveté puérile peut-être, mais tenace, que si cette terre redevient un jour un tant soit peu habitable, ce ne sera que par cet amour dont le juif Paul a parlé jadis aux habitants de la ville de Corinthe au 13e chapitre de sa première lettre. Renoncer à la méchanceté, c'est une expression de liberté. La liberté à laquelle nous sommes tous appelés et conduits par l'Évangile du Christ. Liberté par rapport à soi, par rapport à ses propres pulsions, ses propres illusions et ses fantasmes. Celui ou celle qui entre dans cette démarche intérieure et spirituelle de renoncer à la méchanceté devient capable de transcender l'étroitesse du regard en reconnaissance d'autrui. La crispation identitaire en accueil, l'idéologie en dynamique d'existence reliée et l'esprit de clan en élan d'espérance. Et cela fait partie de la voie de l'intégrité. Une autre manière de dire la transformation de celles et ceux dont l'aspiration à vivre est désaltérée en l'éternel. Dans le Dieu de Jésus-Christ qui donne à la Samaritaine l'eau de la vie qui jaillit en source vive. L'intégrité, c'est d'être complété, car nous manquons. Et c'est pourquoi nous aspirons, c'est pourquoi nous avons soif. Et ce qui nous complète, ce n'est pas quelque chose que nous pourrions gagner ou acquérir ou fabriquer. L'intégrité n'est pas le résultat d'un effort ni d'une performance. L'intégrité advient dans la relation à Dieu, par la relation à Dieu, dans la marche devant Dieu, ainsi qu'il en est pour Abraham au livre de la Genèse, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Ce qui nous complète ne vient pas de nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Notre intégrité tient à ce que nous sommes reliés à la transcendance, par la grâce en laquelle l'aspiration à vivre devient foi, ouverture à la transcendance, relation à l'éternel, confiance au Dieu de Jésus-Christ. Et nous recevons les biens que Dieu ne refuse pas, la grâce et la gloire, la grâce du oui divin, posé sur chacun de nous, et la gloire, c'est-à-dire le poids, la densité d'être qui ne brille pas de mille feux, mais maintient, nous maintient en humain. Dans le Nouveau Testament, l'évangéliste Jean pose l'amour comme étant la gloire de Dieu en Jésus-Christ et l'amour mutuel comme signe des disciples du Christ, l'amour qui rend intègre. La troisième béatitude, heureux l'humain qui met sa confiance en toi, n'est pas une conclusion. Heureux, c'est être en marche, en mouvement, en avancée, en dynamique, ainsi que le traduit André Chouraki. Et c'est être vivant, ainsi que l'exprime le professeur Cuvillier. Et vivant, nous pouvons relire le psaume, cheminer avec les pèlerins des temps anciens et avec celles et ceux qui sont nos contemporains. Au fil des mots, comme au long des jours, aspirant à vivre et combler, intègre, compléter de la grâce de Dieu. Amen.